VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous, il est 17h30 temps universel, le monde aujourd'hui édition du jeudi 16 novembre 2017 en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, Zimbabwe, des émissaires de la communauté de développement d'Afrique australe sont à Harare après le coup de force de l'armée et Robert Mugabe refuse de partir. Au Tchad, le journaliste Judah Alaoudoun a finalement été remis en liberté. Nous reviendrons également sur la visite de deux jours de John Sullivan, secrétaire d'État américain adjoint au Soudan. C'est une première depuis la levée de l'embargo. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Blanche Sanou pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Au Zimbabwe, le chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai, appelle le président Robert Mugabe à la démission. Monsieur Mugabe refuse de partir. La SADC a envoyé sur place deux émissaires pour tenter une médiation. On fait le point avec Eddie Sango.
Morgan Tsvangirai demande que soit mis en place un mécanisme de transition en vue d'élections libres. L'opposant a appelé son rival, le président Mugabe, à démissionner. Robert Mugabe, 93 ans, a refusé de démissionner après les coups de force militaires lors d'un entretien jeudi avec des généraux. Les ministres sud-africains de la Défense et de la Sécurité nationale, envoyés par leur président Jacob Zuma, qui préside la SADC, ont rencontré Robert Mugabe, mais rien n'a filtré pour le moment. À Harare, règne un climat précaire selon cet habitant.
La situation est très calme, comme toujours. Hein. Les gens sont allés au boulot, les magasins ont ouvert. Je n'ai vu que deux chars sont garés auprès de la présidence. La circulation est normale, il n'y a pas de tracasserie quelconque. Et d'ailleurs, le président de Ligue des Jeunes l'a soutenu, ce que l'armée a fait. Donc pour le moment, le président Mugabe est seul.
Hier, le chef de l'armée zimbabwéenne a refusé d'admettre les coups d'État. La semaine dernière, le vice-président Emmerson Mnangagwa a été limogé. Il est depuis en exil en Afrique du Sud.
Au Togo, après avoir rencontré le président Faure Gnassingbé, le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, recevra prochainement l'opposition togolaise pour tenter de trouver une issue pacifique. L'opposition organise depuis août des marches quasi hebdomadaires pour demander la démission du président Faure Gnassingbé. 16 personnes ont été tuées en 2 mois dans ces manifestations. Présidentielle au Libéria, l'ambassade américaine a affirmé sa confiance dans l'intégrité du premier tour de l'élection du 10 octobre, appelant à l'organisation rapide d'un second tour entre le sénateur et ex-star du football George Weah et le vice-président Joseph Boakai. La représentation américaine a également appelé au respect des délais constitutionnels, prévoyant une transition en janvier entre la présidente Ellen Johnson Sirleaf et son successeur. Enquête sur les possibles responsabilités de l'armée française lors du génocide de 94 au Rwanda. La justice française a décidé de ne pas entendre l'ex-chef d'état-major des armées. Les parties civiles qui redoutent un non-lieu accusent les soldats français de l'opération Turquoise d'avoir sciemment abandonné au génocidaire Hutu des centaines de Tutsis. Nous y reviendrons en seconde partie d'émission. Après un mois de détention à la maison d'arrêt de N'Djamena, le directeur de publication du journal Le Visionnaire, Alaoudoun Jouda, a été libéré ce jeudi en fin de matinée. André Konmadjingar fait le point.
Dans sa parution du 11 octobre dernier intitulée Mathias et consorts, le directeur de publication du journal Le Visionnaire a mis en cause les dignitaires du régime au pouvoir dans l'affaire Airbus A340 qui défrait la chronique. Il a promis de faire des révélations à la prochaine parution, une promesse qui rend frileux le pouvoir qui, à travers les institutions judiciaires, l'accuse d'usurper le titre et fonction du journaliste. Dans leur plaidoirie, les avocats de la partie civile ont démontré que leur client détient bel et bien la carte professionnelle du journaliste délivrée par le Haut Conseil de la Communication et a reçu du même parquet le récépissé pour la création du journal. Ils ont plaidé pour que leur client soit relaxé, Dakar, affirme-t-il. Au regard des articles 5 et 20 de la loi 17 portant régime de la presse au Tchad, cette procédure est fantaisiste et injurieuse. Au final, le juge ordonne sa libération pour infraction non constituée. Maître Midaï Guérimbaï est l'un des avocats de la partie civile.
Les juges ont dit à ceux qui ont fait ce montage grossier que la justice désormais ne peut pas être utilisée pour régler des affaires politiques, pour régler le goût de la grandeur, pour s'affranchir, pour s'exhiber.
Pour Alarama Diarmel, co-directeur du journal Le Visionnaire, le combat vient de commencer et va continuer jusqu'au dernier souffle. André Kodnoumadingar Ndiamena pour VO Afrique.
Au Nigeria, la police a dispersé cette nuit un rassemblement de centaines d'habitants d'un bidonville de Lagos. Les protestataires réclament un dédommagement pour avoir été violemment expulsés de chez eux l'année dernière. Au moins 11 personnes seraient mortes et 17 autres auraient disparu lorsque les forces de l'ordre et les bulldozers ont démoli les habitations d'Otodo Ngamé, obligeant les habitants à fuir. Les États-Unis cherchent à renforcer leurs relations avec le Soudan. Un responsable américain est en visite à Khartoum suite à la levée le mois dernier de l'embargo américain. Le point avec Solange Niamoulissa.
Le secrétaire d'État américain adjoint John Sullivan a entamé une visite de 2 jours au Soudan. Il doit aborder plusieurs sujets, dont les droits de l'homme et la liberté de culte. Monsieur Sullivan a dit espérer un développement des relations bilatérales au début d'une réunion avec le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ibrahim Gandour. Les États-Unis ont décidé en octobre de lever certaines sanctions imposées au Soudan depuis 1997. Ils l'ont en revanche maintenu sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Khartoum voit en cette visite une chance de convaincre Washington de retirer le Soudan de cette liste et de normaliser leurs relations.
Et Guinée équatoriale, l'accès à Internet est très restreint depuis le 12 novembre, date des élections parlementaires et municipales, dont les résultats sont attendus vendredi. C'est ce qu'a constaté un journaliste de l'AFP à Malabo.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, Saad Hariri, Premier ministre libanais démissionnaire, a confirmé son intention de se rendre en France après une visite à Riyad du chef de la diplomatie française. Le point avec Idriss Fall.
Après une rencontre avec le ministre français Jean-Yves Le Drian dans sa résidence à Riyad, M. Hariri n'a donné aucune date, se contentant de dire que son départ en France serait pour très bientôt. L'Élysée a annoncé hier qu'il devrait arriver dans les prochains jours à l'invitation du président Emmanuel Macron. Le 4 novembre, M. Hariri a annoncé depuis Riyad sa démission en accusant l'Iran et son allié le Hezbollah libanais de mainmise sur son pays, disant même craindre pour sa vie. Hier, le président libanais Michel Aoun a dit qu'il le considérait en captivité. Le ministre saoudien des Affaires étrangères Abdel Al-Jubeir a aussitôt répondu que M. Hariri est libre de quitter quand il veut. Âgé de 47 ans et détenteur également d'un passeport saoudien, Saad Hariri a démissionné un an après la formation d'un gouvernement avec le Hezbollah chiite de Hassan Nasrallah. Son annonce a pris de court toute la classe politique libanaise et fait craindre une escalade des tensions entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite, les deux puissances régionales rivales.
Israël est prêt à coopérer et à échanger des renseignements avec l'Arabie saoudite pour faire face à l'Iran. C'est ce qu'a déclaré le chef d'état-major israélien. Kaboul, au moins 14 personnes ont été tuées lorsqu'un kamikaze a fait exploser sa bombe à l'extérieur d'une salle de mariage où se déroulait une réunion politique. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Le groupe État islamique, par ailleurs, a perdu 95% des territoires qu'il avait conquis en 2014 en Syrie et en Irak. C'est ce qu'a indiqué la coalition conduite par les États-Unis. Plus de 7,5 millions de personnes ont été libérées, a déclaré Brett McGurk, l'envoyé spécial américain auprès de la coalition internationale. Il a en outre affirmé que l'afflux des combattants étrangers en Syrie s'était presque arrêté, ajoutant que de plus en plus de combattants sont arrêtés au front. matière. Et pour finir, on parle littérature. La romancière française Alice Zeniter a remporté aujourd'hui le concours des lycées pour l'art de perdre, aux éditions Flammarion, un récit puissant sur les non-dits de la guerre d'Algérie, racontant le destin d'une famille française dont le grand-père fut harki. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, Blanche Sanou, la Minute Éco.
Au Cameroun, le gouvernement et l'Agence française de développement ont signé deux conventions de plus de 46 milliards de francs CFA. Ce financement servira à renforcer la compétitivité du secteur privé et à moderniser la gestion des finances publiques. Pour la France, cette initiative consiste à restituer à un pays le remboursement de sa dette sous forme de subvention en vue de l'amélioration des conditions de vie de ses populations. Au Burkina Faso, de nouvelles réformes pour la filière sésame afin de s'imposer sur le marché international, tel est l'objectif des acteurs de ce secteur. Le sésame, deuxième produit agricole d'exportation après le coton, est une filière qui a rapporté plus de 350 milliards de francs CFA entre 2010 et 2016. Le Burkina Faso est quatrième exportateur mondial de sésame après l'Éthiopie, l'Inde et le Soudan. Pour la campagne 2017-2018, le démarrage de la collecte et de la commercialisation commence le 1er décembre 2017. La France soutient le Maroc pour faire du Royaume une plateforme de développement vers l'Afrique. Le Premier ministre français Édouard Philippe et son homologue marocain Saadedine El Othmani ont souligné leur volonté de joindre leurs efforts au cours d'un forum franco-marocain. Appuyé par la France, le Royaume se prépare à intégrer la CEDEAO d'ici la fin de l'année.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le Pérou est le dernier qualifié pour le mondial russe l'été prochain.
Et oui, le Pérou qui a battu la nuit dernière la Nouvelle-Zélande, 2-0. Le Pérou qui se qualifie pour la Coupe du Monde de football pour la première fois depuis 1982. Le pays sud-américain est le 32e et dernier qualifié pour ce mondial en Russie. Les Péruviens ont assuré leur succès grâce à un but de leur attaquant vedette Jefferson Farfán à la 27e minute de jeu avant de creuser l'écart après l'heure de jeu sur un but de Cristian Ramos. L'Amérique du Sud place 5 équipes sur 10 en Russie après la qualification du Brésil, de l'Uruguay, de l'Argentine et de la Colombie. Et pour fêter ça, le gouvernement péruvien a aussitôt décrété que cette journée de jeudi serait chômée au Pérou.
Les 32 pays qualifiés pour le mondial sont donc connus.
La FIFA, qui a publié les statistiques complètes des éliminatoires de la Coupe du Monde, et l'un de ces nombreux chiffres met à l'honneur une équipe africaine, le Nigeria, avec 36 rencontres consécutives sans connaître la défaite dans le tournoi préliminaire pour la Coupe du Monde. Les Super Eagles qui disputeront en Russie leur troisième phase finale d'affilée sont la deuxième équipe mondiale en termes d'invincibilité. Seule l'Espagne fait mieux avec 63 matchs d'affilée sans défaite en qualification. Les deux équipes tenteront de prolonger leurs séries respectives dès que commenceront les éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar 2022.
CHAN 2020, le Gabon et Djibouti exclus.
Oui, la commission d'organisation du CHAN a décidé de la suspension du Gabon et de Djibouti pour la prochaine édition de l'épreuve qui est prévue en 2020. Les deux pays sont en effet sanctionnés en raison de leur forfait lors des qualifications de cette édition 2018. On se souvient que le 5 août, quelques jours avant son match des éliminatoires face à la Guinée équatoriale, la fédération gabonaise avait fait parvenir une lettre de renoncement à la CAF. La fédération djiboutienne, quant à elle, avait envoyé cette lettre de retrait le 17 juillet.
Et enfin NBA, championnat de basket nord-américain, Nicolas.
Cleveland a peut-être enfin lancé sa saison avec une troisième victoire consécutive 115-107 à Charlotte. Le Camerounais de Philadelphie, Joel Embiid, a submergé les Lakers avec 46 points pour la victoire de son équipe, 115-109. À l'Est toujours, Détroit a vu sa belle série de 5 victoires consécutives prendre fin à Milwaukee, défaite 94-99. Atlanta a signé sa première victoire à domicile de la saison en écrasant Sacramento, 126-80. À l'Ouest, San Antonio, qui attend avec impatience les retours de Kawhi Leonard et de Tony Parker, a passé une très mauvaise soirée à Minneapolis. Les Spurs ont été corrigés 86-98.
Merci Nicolas.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite. Aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. 23 ans après le génocide au Rwanda, la justice française refuse d'entendre les anciens hauts responsables militaires français sur d'éventuelles responsabilités de l'armée en marge du massacre de Bicêtre. Anastasie Tudiech a joint Fabrice Tarit, cofondateur de l'association Survie, l'une des trois associations parties civiles dans cette affaire.
Alors il y a l'amiral Langsad, qui était le chef d'état-major des armées au moment du génocide, et son chargé des opérations, le général Germanos, qui occupait donc les plus hautes fonctions au sein de l'armée pour donner des ordres concernant l'intervention militaire française au Rwanda dans le cadre de l'opération Turquoise. Donc il est évident, étant donné le caractère extrêmement sensible de l'opération Turquoise, que c'est au plus haut niveau que des ordres ont été donnés et que ces deux responsables militaires étaient nécessairement au courant de tout ce qui se passait sur le terrain, ce que le juge tend à contredire.
Et comment le juge justifie-t-il justement son refus de les entendre dans cette affaire ?
Sur la période donc entre le 27 et le 30 juin, qui est la période durant laquelle il est reproché aux soldats français de ne pas avoir porté secours aux rescapés tutsi. Le juge considère qu'il y a déjà eu suffisamment d'investigations et qu'il a été prouvé que les ordres étaient donnés par les officiers présents sur le terrain. Et
en autonomie, en fait.
Voilà, exactement, et qu'il ne référait pas nécessairement au chef d'état-major. Alors ça semble tout à fait peu probable dans la mesure où le chef d'état-major lui-même, l'amiral Langsad, a répété et écrit à plusieurs reprises qu'il avait un rôle extrêmement central dans cette opération.
Quelles pourraient être les conséquences de cette décision de la Cour d'appel de Paris ?
Alors, ce que nous redoutons 12 ans après le dépôt de la plainte, c'est que cette enquête ne s'oriente vers un non-lieu. Donc un renoncement de la justice à examiner l'étendue des responsabilités françaises dans cette affaire.
Alors au cas où tout cela se termine en non-lieu, les parties civiles disposent-elles d'un recours ?
Évidemment, nous pouvons faire appel, mais ce qui nous perturbe un petit peu dans ce qui vient de se passer, c'est que le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel vient de refuser un recours, donc un appel que nous avions fait concernant la non-audition de ces généraux. Donc, si même le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel considère qu'il faut suivre les motifs du juge et qu'il n'y a pas lieu finalement de valider notre demande d'appel, qu'est-ce que nous pouvons espérer si plus tard nous faisons appel suite à un non-lieu ? On a l'impression peut-être que l'appel a déjà été examiné à l'avance. Donc tout ça, c'est des signaux extrêmement négatifs et on a vraiment l'impression que la justice entre à son tour dans ce tabou qui entoure la responsabilité française dans le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est un tabou politique, un tabou entretenu par les militaires. Est-ce que ça va devenir aussi un tabou judiciaire ?
Fabrice Tarit, cofondateur de l'association Survie.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Au Congo-Brazzaville, une quinzaine des proches de l'opposant ex-rebelle Pasteur Ntoumi, arrêté dans la foulée de la réélection contestée du président Denis Sassou Nguesso en avril 2016, ont été libérés. Idi Sango a joint à Brazzaville le leader de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Trésor Nzila Kende.
Les 12 personnes ont été libérées. Nous ne savons pas concrètement dans quelle motivation, mais tout porte à croire que cette libération va dans le sens d'essayer d'améliorer la crise actuelle dans le pays, mais ça tombe à pic avec notre campagne qui a été lancée. La campagne, bien entendu, vise à montrer à la face du monde qu'il y a des personnes qui sont injustement incarcérées et qui doivent retrouver leur liberté.
Est-ce qu'on connaît les sorts du pasteur Ntoumi ? Où est-il présentement ?
Il est officiellement, il est dans le Poule, dans le département du Poule. Nous ne savons pas précisément là où il se trouve, mais tout le monde en parle, que ce soit dans le discours officiel des autorités, dans le discours d'autres structures, c'est qu'elle se trouverait dans le pôle.
Qu'en est-il alors des prisonniers politiques comme les généraux Mokoko?
Je ne sais pas s'ils sont concernés par ces mesures, mais est-il que, vu le climat politique et social de l'été, tous les prisonniers politiques doivent être libérés. Parce que le pays a besoin de la cohésion. En réalité, dans une démocratie, on ne peut pas avoir des prisonniers politiques et des prisonniers de pays. Et donc, nous espérons que dans les jours qui suivent, le général Jean-Marie Michel Mokoko et les autres qui sont actuellement en prison vont retrouver leur liberté.
Parlez-nous un peu de votre campagne. En quoi consiste exactement votre campagne, la campagne que vous menez?
La campagne que nous menons vient d'un simple constat. Il y a eu des personnes qui aujourd'hui sont en prison à cause de leur engagement politique, à cause de leur choix politique et qui sont aujourd'hui injustement incarcérées. La détention de ces personnes va au-delà de toute obligation légale du gouvernement congolais en matière de détention, en matière d'arrestation et de détention des personnes. Plus d'une année après son jugement, il est clair que le maintien en détention de ces personnes ne se justifie plus. C'est pourquoi cette campagne a été lancée pour mobiliser la communauté internationale, pour mobiliser l'opinion nationale, pour que les gens comprennent qu'il y a des prisonniers politiques au Congo et que ces personnes doivent être libérées.
Trésor Nzila Kende de l'Observatoire congolais des droits de l'homme à Brazzaville.
Jacques Aristide avec vous, l'actualité oblige, Washington Forum change de thème et va être plutôt consacré ce jeudi à la situation au Zimbabwe. L'armée a pris le pouvoir à Harare mais dément tout coup d'état. Le président Robert Mugabe a toutefois été placé en résidence surveillée. Que sait-on de ce coup de force militaire? Comment le pays en est arrivé là? Quelle en sera l'issue? Est-ce la fin du long règne sans partage de Mugabe? Qui sont les principaux acteurs de la crise? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Cap sur le Burkina Faso, les états généraux de la jeunesse ont débuté. Quelle gouvernance pour une participation optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social du Burkina? Telle est la question posée lors de cette rencontre. De Ouagadougou, Zoumana Wonogo nous en dit plus.
Les jeunes de moins de 25 ans représentent environ 66% de la population burkinabé. Toute chose qui oblige à se pencher sur cette frange importante de la population, a expliqué Smaïla Ouédraogo, le ministre en charge de la jeunesse. Suivant.
Aujourd'hui, c'est les gouvernants qui font attention donc aux gouvernés. Par rapport à ça également, nous notons des déviances. Les civils montent, beaucoup de problèmes restent à l'état au niveau de la jeunesse. Au niveau du gouvernement, nous avons des orientations. Au niveau des jeunes eux-mêmes, ils ont des solutions à proposer. Au niveau des non-jeunes également, dans notre société qui travaille en faveur de la jeunesse, ils ont également des idées. Il faut savoir mettre toutes ces idées-là en commun pour pouvoir avancer. C'est le principe des états généraux de la jeunesse.
Pour Issiaka Ouédraogo, les problèmes de la jeunesse burkinabé ont un nom. L'éducation mal adaptée.
C'est le même discours, les mêmes promesses, les mêmes activités qu'on organise. Mais à la sortie de là, on sent que tout ce qui a été dit reste dans le tiroir. Nous, on a toujours décrié, en tant que responsable des syndicats, que notre éducation va mal. La base n'est pas bonne. Je vais vous donner un exemple. Rentrez à l'université. Dites à un étudiant de vous faire un projet personnel. Il aura du mal à le faire. Et demandez à un étudiant de vous écrire ne serait-ce qu'un poème tout de suite. Il va vous l'écrire, un beau poème. Parce que notre enseignement, c'est pas un enseignement qui peut vraiment nous accompagner, qui nous donner une directive d'une sortie de crise. Économique.
C'est dur pour les jeunes hommes et ça l'est davantage pour les jeunes filles, assure Maïmouna Ouédraogo, responsable d'un mouvement associatif de jeunes filles.
On quitte les parents pour venir s'instruire en ville. Il y a un problème de logement. Parce que moi, je viens d'une commune rurale. En milieu rural, c'est pas comme en ville. Donc les filles ont beaucoup de difficultés. De nos jours, personne ne veut prendre l'enfant de quelqu'un chez lui. Donc les parents sont obligés de louer des maisonnettes pour mettre ces filles-là. Et malheureusement, on voit qu'après, il y a des grossesses non désirées parce qu'elles ne sont pas encadrées. Donc je pense qu'avec, à l'issue de ces états généraux-là, l'État pourra vraiment prendre en compte la cause de la fille aussi dans l'éducation.
L'esprit de la fameuse phrase du président John Kennedy a plané sur l'ouverture des états généraux. et un jeune artiste en a fait une reprise en slam. On l'écoute.
Que le pays est mauvais, que le pays est bizarre, que le pays est pauvre, que le pays n'a pas à manger, que le pays doit changer. Mais le pays, c'est le territoire. Le pays, c'est le sol. Donc le pays n'a pas de main et le pays n'a pas de pied. Le pays ne court pas. Mais pourquoi il est en arrière? Donc le pays sera demain là où aujourd'hui on l'a laissé. Le Burkina n'a que toi et moi sur qui il compte pour avancer.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
L'administration Trump a décidé de réautoriser l'importation aux États-Unis des trophées d'éléphants chassés dans deux pays d'Afrique, notamment la Zambie et le Mozambique. Cette décision pourrait faire des vagues auprès des organisations de défense des éléphants qui s'inquiètent de la baisse de la population d'éléphants en Afrique à cause du braconnage et de la chasse illégale. Pour réaction, Abdourahmane Dia, adjoint à Paris, Bernard Noiret, de l'Association internationale pour la protection des éléphants d'Oli.
L'éléphant est une espèce vraiment menacée. Là, il faut vraiment faire quelque chose parce que je vous dis, il y avait en Centrafrique, le pays que je connais par cœur, ça fait 40 ans que je vis dans ce pays-là, il y a 30 ans, 35 ans, il y avait 250 000 éléphants en savane et en forêt. Et aujourd'hui, on peut espérer peut-être entre 3 et 5 000 éléphants dans ce pays. Donc vous voyez la dissémination qui a eu de ces éléphants. Maintenant, ça devient une espèce très rare, surtout en Afrique centrale.
La Centrafrique n'est pas touchée par cette mesure, puisque les chasseurs américains vont surtout en Zambie et au Mozambique. Mais pour parler un peu de la Centrafrique, qui est un pays que vous connaissez, est-ce que vous pensez que la situation, l'instabilité politique, la guerre qu'il y a dans ce pays, a un impact sur la situation des éléphants?
Ah, tout à fait, tout à fait. Vous savez que actuellement les braconniers qui braconnent, ce sont pas les gens du pays, ce sont pas les Centrafricains, ce sont les gens extérieurs au pays, à savoir particulièrement les Soudanais et les Tchadiens qui viennent braconner. C'est eux qui pillent le pays en défense d'éléphants.
Justement, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment d'autorité centrale pour combattre ce braconnage.
Oui, vous avez raison, mais c'est un faux débat parce que vous prenez par exemple la Tanzanie, qui est un pays qui est fréquenté par les chasseurs américains. Il y a beaucoup de chasseurs américains qui vont. Ils ont divisé par 3 le nombre d'éléphants en l'espace de 20 ans aussi. Le Kenya, qui était un pays où il y avait beaucoup d'éléphants dans le temps, ils ont arrêté la chasse il y a plus de 30 ans aujourd'hui. Et c'est pareil, le braconnage des éléphants se fait, nous tâtons, les éléphants divisés par 3 également ou 4 dans leur densité dans ces pays-là, alors qu'il n'y a plus la chasse. Et pourtant, ce n'est pas des pays qui étaient en guerre, particulièrement.
Et pourquoi, selon vous, c'est important de protéger cette espèce
Surtout pour l'écosystème. Vous savez que les éléphants, par l'infection, font la reproduction des arbustes, de la faune, etc. Mais c'est indispensable. Puis en plus, c'est quand même l'animal emblématique de l'Afrique, l'éléphant.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la protection des
L'avenir, il faut vraiment que toutes les nations, enfin toutes les gens qui décident de la faune africaine, pour créer une armée spécialisée là-dedans, parce qu'il n'y a qu'une armée qui peut lutter contre ça. On connaît les braconniers, mais si vous voulez, il faut une armée qui puisse combattre les braconniers, avec des moyens énormes, hélicoptères, drones. C'est la seule solution, à mon avis, pour sauver les éléphants.
Voilà, c'était Bernard Noiret de l'ONG internationale d'Oli.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. Présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir. We'll be right back.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM. Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.